Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Le 18 juin dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a commémoré au Mont-Valérien l'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle. Sous un soleil éclatant, seul devant l'immense croix de Lorraine érigée contre le mur d'enceinte du fort, le chef des armées a assisté à la lecture du texte de l'appel avant que ne résonne la sonnerie aux morts. Selon un protocole immuable, après une minute de silence rompu par la Marseillaise et le chant des partisans, et après avoir ranimé la flamme du souvenir, Emmanuel Macron s'est recueilli dans la crypte funéraire du mémorial où reposent 16 combattants de la France libre. Bonjour Antoine Grande.
Bonjour.
Vous êtes directeur des hauts lieux de mémoire, dont fait partie le Mont-Valérien. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le général de Gaulle a choisi ce lieu, justement, pour célébrer chaque année l'appel du 18 juin ?
Dans la clandestinité, l'histoire de la résistance s'écrit à travers les tracts, les papillons, à travers les émissions sur Radio Londres, qui exhortent au combat, mais aussi rendent un hommage à ceux qu'on appelle alors les martyrs. Soit parce qu'ils ont été exécutés, abattus dans des combats ou déportés. Ces martyrs au Mont-Valérien sont au nombre de 1008, parce que c'est le premier site d'exécution en France d'otages et de résistants. Alors à l'époque, on n'utilise pas ce chiffre de 1008, la construction des mémoires, les estimations, les combats mémoriels du lendemain de la guerre amènent plutôt ce chiffre entre 4000 et 10000.
D'accord, voyez, largement surestimé.
C'est toute l'écriture résistentialiste. Mais lorsque le général de Gaulle revient à Paris, il sait qu'à côté de la capitale se trouve cette colline avec une forteresse militaire où furent exécutés des patriotes. Parmi ces patriotes, lorsqu'aujourd'hui nous regardons plus précisément les statistiques, on sait que près de 70% d'entre eux étaient communistes, près de 17% d'entre eux étaient juifs, une vingtaine de nationalités, 200 étrangers. C'est donc un lieu fortement marqué par une mémoire communiste qui existe au Mont-Valérien. Et lorsque le chef de l'État s'y rend, à ce moment-là, du gouvernement provisoire, il rend un hommage à tous les fusillés. Mais en même temps, promet la construction d'un lieu de mémoire qui excéderait le périmètre d'un lieu rendant hommage exclusivement à la résistance, mais bien à l'ensemble des combats, des combattants, des batailles et des différents théâtres d'opérations où des Français furent engagés pour l'indépendance de la nation. C'est donc comme ça que dès le lendemain de la guerre, il y édifie un premier mémorial dans une casemate avec à ce moment-là 15 dépouilles, puis 16 dépouilles emblématiques de l'ensemble des combattants. Parmi eux, pas de fusillés du Mont-Valérien, des résistants, des combattants de l'armée française, de l'armée coloniale, des Français libres, la diversité des combattants. De retour au pouvoir en 1960, il décide finalement de tenir cette promesse de faire au Mont-Valérien un haut lieu de la mémoire nationale, d'où vient d'ailleurs le terme de haut lieu de la mémoire nationale pour les sites emblématiques des conflits contemporains, propriété de l'État. Et c'est donc à cet endroit qu'il met en forme, met en musique, la grande geste mémorielle gaulliste qui débute en 1960, qui va s'étendre sur une dizaine d'années avec la construction, l'inauguration de différents lieux de mémoire. Je pense par exemple au camp de concentration du Struthof en Alsace avec le premier lieu de mémoire, le Mont Faron dans le sud de la France, un petit peu après le mémorial des martyrs de la déportation sur l'île de la Cité. Bref, au Mont-Valérien, le général de Gaulle lance une grande décennie commémorative. C'est le premier site qu'il inaugure. Il place comme figure tutélaire sur ce lieu la sienne, puisque c'est une croix de Lorraine de 12 mètres de haut qui trône au centre de l'esplanade.
Très impressionnante, effectivement.
Et qui veut rassembler ces différentes mémoires du Mont-Valérien.
D'accord, une synthèse. Alors, cette geste qu'il a inaugurée, finalement, le président l'a poursuivie. On aurait pu d'ailleurs s'attendre peut-être à ce qu'il y ait des innovations, mais en fait, il est resté quand même dans la droite ligne. Le protocole n'a pas été modifié, alors que finalement, depuis longtemps, il y a des cérémonies, on va dire, concurrentes qui ont existé. Celle, par exemple, organisée par les fils et les filles des déportés juifs de France pour commémorer l'exécution des 75 otages juifs et ou communistes, mais qui se tient aujourd'hui au mémorial de la Shoah. On a aussi la cérémonie de l'association des mémoires du Mont Valérien, celle des familles de fusillés. Enfin voilà, c'est un lieu qui reflète finalement l'éclatement des mémoires, ou en tout cas la concurrence des mémoires.
Alors la concurrence, je ne sais pas si nous sommes encore dans une période de concurrence. Elle existait au Mont Valérien à travers l'histoire, c'est une certitude. Lorsque de Gaulle inaugure le mémorial de la France combattante, naturellement, c'est une mise en ordre des mémoires. C'est écrire la grande geste commémorative de l'État. C'est la raison pour laquelle ce protocole ne change pas. Au cœur de ce protocole se trouve l'ordre créé par de Gaulle lui-même, qui est l'ordre de la libération. Le dernier des compagnons de la libération qui viendra à disparaître sera enterré dans la crypte. C'est l'ordre de la libération qui vraiment est à la manœuvre sur le 18 juin parce que nous commémorons le 18 juin. C'est-à-dire que nous avons certes un protocole qui évoque principalement la geste gaullienne. Mais en même temps, nous étions le 18 juin, journée nationale de l'appel du 18 juin. Donc c'est logique que bien ce sûr. Soit ça qui est au cœur. Par contre, effectivement, il y a d'autres cérémonies. Vous évoquiez notamment la cérémonie qui est organisée par les fils et filles de déportés juifs de France, à Schlarsfeld, avec le mémorial de la Shoah le 15 décembre. Pourquoi ? Parce que c'est la première grande exécution d'otages au Mont Valérien, parmi lesquels des juifs sont choisis à Drancy pour être fusillés au Mont Valérien. C'est une mémoire qui s'est construite à l'aune des travaux de Serge Klarsfeld, qui n'est rentré effectivement au Mont-Valérien qu'à l'issue de nombreux combats pour faire reconnaître cette identité de certains fusillés, cette identité d'otage. Mais vous avez aussi cette cérémonie, vous évoquiez aussi des familles des fusillés qui se déroulent au début du mois de juin et des mémoires du Mont-Valérien, qui là est une association très patriotique du 92 qui fait cela à l'automne. Alors, De Gaulle avec le mémoire de la France combattante, certes, met tout ça en ordre, mais rassemble aussi. C'est-à-dire rassemble dans un espace délimité du site des lieux de mémoire qui étaient disparates. Ce qui est important, et c'est ma fonction aujourd'hui sur ce site, c'est de trouver un moyen pour que l'ensemble de ces mémoires s'expriment. Moi, je ne crois pas qu'il faille un seul geste pour l'ensemble des mémoires. Je ne crois pas qu'il faille que les spécificités, les particularités des différentes mémoires que nous trouvons au Mont-Valérien se taisent derrière un seul et même symbole. Au contraire, je pense qu'il faut savoir les reconnaître dans leur diversité.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours muséographique et comment ce parcours prend en compte, justement, comme vous dites, ces mémoires différentes sans être concurrentes. Voilà.
Enfin, très bien.
C'est sort d'un peu différent.
Alors, il faut revenir, je suis désolé, c'est ma déformation professionnelle, mais il faut revenir à l'origine des premières visites au Mont-Valérien. Ces premières visites sont des pèlerinages. Ce sont des visites de recueillement de familles qui se rendent dans la clairière où leur proche a été exécuté. C'est aussi des manifestations politiques.
Partie. Alors juste, ouais, j'en profite, donc je vais revenir encore avant. Est-ce que vous pouvez nous résumer voilà, la fonction de ce site quand, voilà, quand commencent les exécutions et voilà.
D'accord.
Parce que vous avez parlé de la clairière, donc je me suis dit, il faut quand même qu'on en parle.
Alors, le Mont-Valérien n'est pas le premier lieu d'exécution en Île-de-France. Le premier, c'est le fort de Vincennes, avec l'exécution de Jacques Bonsergent, qui est la première exécution sur le territoire français par la justice militaire allemande de quelqu'un accusé d'une action d'insubordination de résistance. Le Mont-Valérien devient progressivement, à partir de l'été 41, l'espace central des exécutions en Île-de-France. Pourquoi ? Parce que forteresse militaire, des garnisons allemandes y stationnent. C'est à la fois proche de Paris, mais à l'écart, à l'abri des regards et des grands mouvements de population. Alors, je dis à l'abri des regards, il faut tempérer cette formule parce que jamais aucune exécution du Mont-Valérien ne s'est déroulée en catimini de manière secrète. Il y avait des annonces, des ordonnances d'exécution, il y a eu de la propagande faite autour de certaines exécutions. On se rappelle tous de l'affiche rouge du groupe de Missak Manouchian, de FTP-MOI. Il y avait dans la presse collaborationniste, au lendemain des grandes exécutions d'otages, un petit article expliquant que des terroristes, des juifs, des bolcheviks avaient été fusillés au Mont-Valérien, des assassins, etc. Donc, on est sur un lieu qui a une fonction militaire, mettre hors d'état de nuire les ennemis qui sont les ennemis parce qu'ils prennent les armes, les résistants, les ennemis par essence, les juifs, les ennemis par engagement, les communistes. Et en même temps, c'est l'outil qui sert à de nombreuses propagandes, que je ne mets naturellement pas au même niveau, c'est-à-dire la propagande française, la propagande allemande, mais qui sert aussi, je vous le disais tout à l'heure, dans la résistance, comme sujet de rassemblement, créer l'émotion dans les populations, montrer ce qu'est la collaboration, montrer ce qu'est l'occupation. Donc on est, dès 1944, dès la fin des exécutions Mont-Valérien et plus largement dès la libération de Paris, la région parisienne, dès la fin de l'été 44, le Mont-Valérien est déjà un lieu de mémoire dans la
D'accord.
majorité des mentalités.
On retombe sur...
Et donc, c'est pour
sur
ça que
les premières visites.
Dès ce moment, vous avez des défilés de familles, de partis politiques qui se rendent au Mont-Valérien, qui se rendent dans la clairière, qui suivent à ce moment-là le chemin historique, militaire de la forteresse. C'est ce moment où vous avez l'éclatement des lieux de mémoire, où à partir du mois de novembre 1944, il y a une réflexion. Le général de Gaulle demande à son ministre Henri Freinet de réfléchir en lieu de mémoire. De nombreux projets sont évoqués. Le premier geste, c'est cette casemate dont je vous parlais, d'abord avec 15 dépouilles. Il y a plus loin, sur la forteresse, trois croix latines où tous les week-ends, des messes sont dites en mémoire des fusillés. Et vous avez ces défilés dans la clairière et dans la chapelle. Donc des mémoires qui sont éclatées. En 60, lorsque le monument est inauguré, le mémorial de la France combattante, c'est une parcelle du site qui est découpée, hein, qui est isolée par des grillages, et une nouvelle entrée est pratiquée. C'est celle par laquelle vous avez vu le président de la République, le 18 juin, rentrer dans la crypte, qui ouvre ensuite sur un escalier amenant jusqu'à la clairière. À cette époque-là, est construit un chemin qui tourne autour de la clairière sans la traverser. Ce parcours s'appelle le parcours du souvenir. On est dans une période au moment de cette construction où comprendre et venir rendre hommage au Mont-Valérien, aux fusillés, n'appartient pas encore à ce que nous appellerions aujourd'hui de la mémoire, mais appartient au souvenir. Et donc, on n'emprunte pas les pas, ces visites se font dans le silence et le recueillement. Il a vraiment fallu, et lorsque vous parliez de ces affrontements de mémoire, il a vraiment fallu qu'il y ait des confrontations assez violentes entre les blocs de la mémoire résistentialiste, le bloc de la mémoire extrêmement patriotique, très gaulliste, les blocs de la mémoire communiste, les blocs de la... et l'apparition d'un nouveau bloc de mémoire qui a été porté par Serge Klarsfeld, Léon de Sévéry au Mont-Valérien, sur la question de la mémoire juive du Mont-Valérien, la question des premières exécutions. Alors, arrivés par deux biais, hein, leurs travaux sont tout autant axés autour des juifs engagés dans la résistance, que ce soit dans la résistance communiste ou dans la résistance non communiste, et les juifs fusillés en tant qu'otages, très souvent juifs et communistes, fusillés dans la clairière du Mont-Valérien. Et donc l'arrivée de cette nouvelle mémoire amène nécessairement les pouvoirs publics à proposer une lecture moderne, scientifiquement plus rigoureuse de ce qui s'est déroulé au Mont-Valérien. C'est le moment où nous passons du souvenir à la mémoire au Mont-Valérien, mais aussi à la pédagogie et aujourd'hui, je l'espère, à l'histoire, avec l'inauguration d'un parcours muséographique, l'inauguration en 2003 d'une cloche portant l'ensemble des noms des fusillés résistants et otages, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2003 pour qu'il y ait un monument en souvenir des fusillés au Mont-Valérien. Et aujourd'hui...
Avec une exposition permanente
Avec
aussi.
Une exposition permanente, avec une chapelle qu'il nous faut encore rénover pour sauvegarder les derniers graffitis, puisque dans cette chapelle étaient enfermés certains fusillés avant d'être exécutés. Et aujourd'hui...
On peut voir les poteaux aussi.
Exactement. Et aujourd'hui, une programmation scientifique, culturelle. C'est-à-dire que, voyez, la construction du Mont-Valérien en tant que lieu de mémoire, lieu d'histoire, est loin d'être achevée. Nous sommes, je crois, dans une nouvelle étape. Et lorsque vous posiez la question... Du geste du 18 juin, c'est un geste qui est institutionnalisé depuis 1960. Il nous reste aujourd'hui à institutionnaliser d'autres gestes pour les autres mémoires rassemblées, apaisées au Mont-Valérien.
D'accord, donc c'est le projet, c'est votre projet sur ce site, c'est vraiment de faire place finalement à toutes les victimes de la répression nazie et de montrer finalement à travers l'exposition permanente aussi, c'est un lieu qui permet de comprendre vraiment la répression, que ce soit par exemple la politique des otages, de comprendre finalement l'articulation entre représailles en France, déportation, à quel moment on va choisir de déporter plutôt que de fusiller, etc. Enfin, voilà, c'est aussi d'un point de vue pédagogique, j'imagine
Exactement.
Qu'il y a beaucoup de scolaires qui viennent. Enfin,
alors, ça l'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que de manière purement pédagogique, nous sommes sur un lieu qui permet de comprendre, vous l'avez dit, la répression, mais qui permet aussi de comprendre les engagements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement voir le Mont-Valérien comme le lieu des exécutions, vous l'avez dit, comme l'espace central d'articulation, une finalité aussi du système répressif. Le Mont-Valérien dit aussi Compiègne, dit aussi Drancy, dit aussi Romainville, dit les prisons parisiennes, dit les forces de police répressives, les tribunaux. Vous l'avez dit, dit aussi les grandes périodes, les grandes évolutions au sein de la répression nazie, du code des otages à la déportation massive, demeura toujours en lieu d'exécution pour la Wehrmacht, même sous contrôle de la SS. Le Mont Valérien est aussi le lieu qui nous permet d'étudier la construction des mémoires, c'est-à-dire comment est-ce que la nation a fait mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale. Vous évoquez l'exposition permanente. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté de sortir le Mont Valérien aussi du Mont Valérien, avec des conférences, avec des expositions itinérantes, avec un certain nombre d'actions qui, vous l'avez dit, parce que le Mont Valérien était au cœur d'un système répressif, il le permet de le comprendre et doit être aussi au cœur d'une opération de compréhension historique.
Alors, d'ailleurs, on a vu, vous allez recevoir Denis Péjanski bientôt, et puis à la rentrée aussi, il va y avoir une conférence avec Olivier Lallieu
et Vladimir Tournant sur la construction des mémoires, justement. Tout à fait.
D'ailleurs, j'en profite pour renvoyer les auditeurs au site qui est très bien fait, www.mont-valérien.fr, parce que. Bon, non seulement il y a le programme des conférences, vous allez même projeter, je ne sais plus exactement,
L'Armée du crime
de Robert Guédidian.
Normalement deux films, L'Armée du crime et L'Armée des ombres.
L'Armée des ombres.
Aussi à la rentrée.
Vous allez faire aussi des visites théâtralisées, c'est ça?
Nous l'avons déjà fait.
Vous avez commencé.
Exactement.
Et sur le site, non seulement on a un historique du lieu qui est très développé, mais aussi on a des ressources documentaires, des affiches, on a aussi l'intégralité des lettres des fusillés, quasiment, j'imagine,
presque
ouais. Le fac-similé, et ça, c'est vraiment très émouvant de se plonger là-dedans. Il y a vraiment un effort très, très important qui a été fait de mise en valeur du site et de le rendre accessible. En plus grand nombre. Et je me demandais justement si cet effort portait ses fruits. Est-ce qu'il y a une forte une influence plus grande? Est-ce qu'il y a beaucoup de scolaires?
Alors, on accueille de plus en plus de monde dans des proportions qui demeurent modestes. On a une fréquentation qui va progressivement, je pense, cette année, atteindre les 25 000 visiteurs. Une fréquentation qui augmente avec la création d'un programme pédagogique, d'un service pédagogique avec de nouvelles visites, vous l'avez dit. J'espère qu'effectivement cette fréquentation continuera de croître.
Mais par rapport aux autres lieux de mémoire justement dont vous avez la direction, est-ce que c'est le Mont Valérien qui l'emporte ou le mémorial de l'île de la Cité dont on parlait aussi précédemment?
Si nous pouvons faire une autre émission sur l'île de la Cité, j'en serais très heureux. L'île de la Cité, on a aussi une augmentation qui est une fréquentation qui est en augmentation avec la nouvelle muséographie. Disons que l'augmentation de fréquentation ne joue pas au même niveau. C'est-à-dire que là, clairement, au Mont-Valérien, on a mis tous nos efforts sur la fréquentation pédagogique avec une programmation, vous l'avez dit, extrêmement dédiée à ces publics-là. Des visites thématiques, notamment sur l'engagement des étrangers, sur la construction des mémoires, sur la répression, et même toute l'année pour les scolaires. C'est-à-dire que ces différentes mémoires que vous évoquiez autour du Mont Valérien puissent être explorées toute l'année pour les scolaires. Alors, on a une augmentation là qui se situe au niveau de 35% au niveau de la fréquentation scolaire. Sur l'île de la Cité, dans une période où c'est vrai qu'on voit que la fréquentation des lieux historique, mémoriel, culturel, parfois peut baisser en raison des circonstances que nous connaissons. On a une fréquentation qui est en augmentation aussi et je m'en réjouis.
Non, mais c'est vrai, disons quand même un mot sur le fait que le parcours a quand même été revu et qu'aujourd'hui, tout ce qui concernait notamment la déportation des Juifs de France qui n'était pas forcément bien, où les chiffres n'étaient pas forcément les bons, il y a maintenant des panneaux rectificatifs.
Alors, les chiffres étaient faux sur l'ensemble des déportations, il faut le dire.
C'était un peu au doigt mouillé, c'était comme les 15 000 fusillés.
Non, c'est différent, ce n'était pas au doigt mouillé, c'est-à-dire que quand sur l'île de la Cité, le réseau du souvenir écrit aux 200 000 martyrs de la déportation, aux martyrs français de la déportation, certes le chiffre de 200 000 faux, il est univoque, etc. Mais c'est avant tout une intention, l'intention de saluer l'ensemble des déportations et de n'en oublier aucune de leur volonté. On est là aussi sur un geste précurseur mémoire. Donc c'est pour ça que tout ce parcours vient d'être fait. On a travaillé avec deux commissaires d'exposition que vous connaissez bien, Olivier Lallieu, Thomas Fontaine, l'ensemble du contenu. Et je crois qu'on est arrivé effectivement à quelque chose qui, sans être exhaustif, est une bonne porte d'entrée vers la compréhension de la déportation, de la solution finale et de son organisation sur le territoire français auparavant.
Et justement, je me demandais par rapport à l'histoire, pourquoi finalement c'est pas devenu un lieu d'exécution de masse, en fait,
Le Mont Valérien?
le Mont Valérien.
Ça l'a été.
Ça l'a été, vous considérez, oui, qu'à partir
Ça
de
l'a été.
116, non, mais par rapport à
Un
pourquoi à un moment
quart
donné
des
la déportation a
fusillés.
été privilégiée par rapport à l'exécution? Est-ce que c'était parce que...
Alors cela, ça nous amène aussi une chronologie nazie, qui est le moment de la prise de contrôle de l'ensemble de la répression sur les territoires occupés par la SS, qui devient l'État nazi, c'est-à-dire que la SS n'est plus un parti. Hein. Et à ce moment-là, alors là, je renvoie à différents travaux là-dessus. Notamment, j'ai parlé de Thomas Fontaine, Tal Brutmann a travaillé sur ces questions-là, naturellement Ned Vivjorka aussi. Il y a, vous le savez, vis-à-vis du territoire français aussi un fonctionnement qui est différent, une chronologie qui est décalée par rapport au reste de l'Europe. On n'exécute pas massivement par mesure de représailles en 41, en 42, en 43 aussi facilement en France qu'on le fait sur les territoires de l'Est de l'Europe. Je pense à la Yougoslavie, je pense au territoire soviétique, je pense à la Pologne par exemple.
D'accord, les exécutions sont
Donc
quand
les
même en
exécutions
mauvaise presse, quoi, sont...
et sont jusqu'à ce moment-là dans un cadre qui est notifié, c'est-à-dire que ce qui prévaut au Mont Valérien, c'est le code militaire,
D'accord.
les condamnations à
Donc
mort
c'est
des
des
résistants
condamnations, ouais, par les
et
tribunaux
le code des
militaires.
otages. On est sur un lieu qui ne peut pas être plus que cela.
D'accord.
Ça n'a rien à voir avec les espaces de représailles immédiates que l'on va connaître autour de l'été 44. Le président de la République était récemment en
Adour sur
Radour.
glane, ouais.
Nous nous rappelons tous le Vercors, ce qu'il a pu se passer aussi aux Glières. Voilà. On n'est pas là au Mont-Valérien. On est vraiment sur un outil de la guerre de la Wehrmacht. C'est-à-dire qu'au Mont-Valérien, on assassine des ennemis. Les ennemis parce qu'ils ont des armes, ou les ennemis par essence. Et c'est son rôle, sa fonction. À partir du moment où est mise en place sur le territoire français la déportation massive pour aller dans les camps de travail, pour aller dans les camps de concentration, pour faire travailler dans les usines du Reich, à ce moment-là, ces exécutions de 60, 70, 80 personnes, on est jusqu'à 88 personnes fusillées au Mont-Valérien, cela s'arrête. On préfère la déportation aux exécutions. Et le Mont-Valérien demeurera à partir de ce moment-là principalement le lieu d'exécution des résistants, de ceux qui sont pris les armes à la main et jugés parce qu'ils sont militairement dangereux immédiatement. C'est notamment le cas du groupe de la Fiche Rouge le 21 février 1944 et du démantèlement progressif des grandes organisations de résistance au Mont-Valérien.
D'accord. Ça permet de comprendre en fait l'importance de ce lieu, voilà, non seulement dans la mémoire nationale, mais aussi dans l'histoire de la résistance, hein, comme vous le disiez bien. Merci Antoine Grande. Je rappelle donc que vous êtes directeur des hauts lieux de mémoire, dont fait partie le Mont Valérien. Et donc, comme nous l'avons indiqué, dès la rentrée, il y aura le 27 septembre notamment une conférence, hein,
Le 28
avec.
juin aussi, de Denis Péchanski.
Alors, le 28 juin, Denis Péchanski, voilà. Et ensuite, le 27 septembre, pour les auditeurs que ça intéresserait, c'est l'occasion de se rendre sur le lieu avec Olivier Lallieu, que nous connaissons bien, et Vladimir Troplin. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info ou Mémoire Vive au pluriel.net. À dimanche prochain.